On en parle sur CFM.
12h08, on en parle sur CFM, l'émission de la rédaction. Avec nous aujourd'hui, Denis Lefebvre de l'ADTCOC. Bonjour Monsieur Lefebvre.
Bonjour à tous.
Vous nous direz tout à l'heure ce que ça veut dire ce ADTTOC. Monica Gunz-Arnaud est avec nous également. Bonjour madame. J'ai bien prononcé ?
Absolument, absolument. Merci beaucoup, bien le bonjour.
Et Anne Chouville est également avec nous. Vous êtes les cofondatrices du club Business Connect. Il y a une troisième personne, je crois, vous allez nous donner son nom.
Cécile Vieval, qui n'a pas pu se rendre disponible ce matin. Trois cofondatrices pour Club Business Connect, le réseau des dirigeantes du Centre Manche.
On verra ça en deuxième partie d'émission. Nos deux sociétaires du jour, Casimir Bizinski et Jean-Luc Michel, vont arriver d'ici quelques instants. Ils sont sur la route. On les retrouvera très rapidement. On va commencer avec vous, Monsieur Lefebvre, et on va parler de la DTCOC. Ça veut dire quoi exactement ?
Association de défense du trait de côte du Cotentin.
C'est quoi ? C'est une association ?
Alors c'est une association, loi 1901, qui a pour objectif de fédérer des personnes morales qui ont tous un intérêt à la protection du littoral. Mmh. Alors ça peut être, à la base c'est des ASA, des associations syndicales de propriétaires.
Alors c'est quoi des ASA ? ASA, c'est ça.
ASA, c'est des associations syndicales autorisées, c'est ça que ça veut dire. Mais vous avez plusieurs types d'associations syndicales, vous avez des associations syndicales libres et des associations syndicales autorisées. Le autorisé, c'est autorisé par la préfecture.
Par l'État donc.
Par l'État. Et donc on passe d'un régime de droit privé à un régime de droit public parce qu'on a une mission de service public. Alors ça, c'est les ASA. Mais nous avons aussi, dans notre association de personnes morales, des syndicats professionnels, de conchyliculteurs, par exemple, ou de professionnels de la mer, parce que aussi on a un intérêt à être auprès de la mer, parce que sinon, ils auront du mal à travailler.
Combien de personnes vous représentez aujourd'hui ?
Alors, on ne va pas parler en nombre de personnes et d'adhérents, parce que, si vous voulez, nous, on fédère des différents acteurs, personnes morales. Donc en gros, on touche à l'heure actuelle 10 000 habitants.
D'accord.
Qui sont soit des professionnels, soit des propriétaires fonciers, soit des gens qui habitent sur la zone littorale. Donc ça peut être des commerçants, tous ces gens qui travaillent sur des zones littorales et qui ont un intérêt à la protection du littoral.
D'accord. Et donc l'association,
elle sert à fédérer tout ça. Notre mission, c'est de communiquer sur les risques, les enjeux de la protection du littoral et d'accompagner toutes ces structures morales aux démarches pour la protection du littoral. Ça n'a rien d'évident. Les lois se superposent, peuvent même s'opposer.
On verra après la loi, mais c'est quoi votre rayon d'action ? C'est l'ensemble du département de la Manche ?
L'ensemble du département de la Manche, de Utah Beach jusqu'à Saint-Jean-le-Thomas, voire plus bas. Donc vous prenez les 350 km de côte, et tout au long, on a des différentes personnes morales qui sont associées pour essayer de communiquer sur le sujet, pour essayer de travailler ensemble en bonne intelligence.
Est-ce qu'on est préparé aux risques actuellement ?
Est-ce qu'on en parle déjà ?
Je vous remercie de nous accueillir.
Parce que pour le préparer, il faut déjà le connaître. Le connaît-on ? Quels sont les enjeux des risques ? Alors, tout le monde dit, oui, il y a un recul du trait de côte, c'est très bien. Mais ça correspond à quoi, le recul du trait de côte ? L'érosion, c'est une chose. Mais derrière, il y a les conséquences. Par exemple, la submersion. Et puis derrière, en général, quand on a des tempêtes, on a aussi des grosses pluies. Et qui dit grosse pluie, dit inondation. Donc en gros, les trois risques, c'est l'érosion, la submersion et l'inondation. On fait bien la distinction entre la submersion, qui est une accès de la mer sur les terres, de l'inondation, c'est de l'eau douce qui doit s'en aller vers la mer. Donc à un moment donné, si on n'arrive pas à faire écouler l'eau douce vers la mer, l'eau douce, elle reste là où elle est.
Donc les solutions, c'est mieux appréhender les... Est-ce que les gens appréhendent ?
Alors voilà, l'enjeu, c'est présenter ces risques. Que chacun, chaque habitant, chaque commerçant, chaque professionnel soit conscient par rapport au lieu où il habite, du risque auquel il est confronté. On a aujourd'hui un mélange global sur quels sont les risques auxquels je suis exposé. Quand je dis « je », c'est chaque personne. On ne peut pas généraliser en disant tous les gens de la côte...
Donc c'est pas une question de distance, à un kilomètre, on risque plus rien.
Non, ça dépendra exactement de où vous êtes. Je peux vous donner des fonds de Havre qui n'ont pas de risque d'érosion, mais qui ont un vrai risque de submersion. Mmh. Mais vous avez des gens qui vous disent « oh, moi je suis en danger d'érosion ». Oui, il y a un risque d'érosion, mais ce n'est pas forcément le risque principal. Vous avez vu qu'à votre arrière, vous risquez d'avoir les pieds dans l'eau. Donc, vous allez avoir une érosion, peut-être, mais surtout, vous allez avoir une submersion. Par contre, si on ne soigne pas l'érosion, on arrivera à la submersion. Vous voyez, tous les enjeux sont globaux. Et si tout arrive en même temps, ben on aura aussi l'inondation.
Alors, c'est quoi le remède? C'est mettre des digues partout et remettre du sable là?
Là, vous travaillez pour l'État, monsieur? Parce que
non,
la réalité...
Non, pas encore.
La réalité, c'est que c'est exactement ce que voudrait faire l'État. L'État voudrait dire, tout le monde pareil, alors on fait ci ou on fait ça, etc. La réalité, c'est que tout autour de la Manche, suivant là où vous êtes, vous allez avoir des ouvrages différents. Mmh. Certains auront besoin d'enrochements, certains auront besoin des pieds rocheux, d'autres vont avoir besoin de portes à marée. Certains, du réensablement suffira, d'autres, il faudra et des pieux, et des rochers, et de l'ensablement, tout sera nécessairement. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut des solutions, ça existe. Comme j'ai déjà dit, les Néerlandais le font depuis le Moyen-Âge. Mmh. Donc, si les Néerlandais le font, sommes-nous...
C'est une question de moyens ou de compétences?
Alors, de quels moyens parle-t-on?
Les compétences.
Alors,
financiers.
Voilà, les moyens financiers, si on veut se les donner, on va les trouver. Mmh. Mais il faut juste qu'on soit cohérent entre le risque qu'on a et les enjeux financiers. Parce qu'aujourd'hui, on dit oh, ça coûte trop cher, on fait rien. Or, ça n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mener des actions à des coûts raisonnables, raisonnés. Et c'est bien l'objet de notre association, c'est-à-dire qu'on a clairement un objectif de travailler avec le réalisme de ce que l'on est et de ce que l'on a comme moyen.
Jean-Luc Michel voulait intervenir.
Oui, bonjour à tous. Oui, je voulais intervenir parce que c'est un sujet important, notamment au Césaire normand. Nous avons fait venir le GIEC normand pour nous expliquer un peu, avoir un peu de perspective sur le sujet, parce que ce qu'il faut, c'est regarder ce qui va se passer dans les 20, 30, 40, 50 années qui viennent.
5. Avant 20 et 10, il y a 5.
Oui, et il y a 5. Et donc le GIEC, il est plutôt alarmiste, hein, en disant, voilà, le département de la Manche, entre autres, va avoir des difficultés sur le sujet que vous venez de rappeler. Alors, ça c'est à prendre en compte. Effectivement, vous avez rappelé, il y a plusieurs solutions. Et lorsqu'on parle du financement, alors il y a aussi des compétences qui ont été transférées, hein, puisque aujourd'hui, les EPCI, alors pour des raisons qu'on peut expliquer, mais ont pris les compétences, donc ça veut dire
alors
que chaque
EPCI, l'intercommunalité,
chaque citoyen aujourd'hui, quel que soit l'endroit où il se trouve, il paye une taxe. Alors là, je suis d'accord avec le monsieur, c'est effectivement, il faut pour engager des solutions du pognon, hein, il faut de l'argent. Et de l'argent, chaque citoyen en paye. Puisque à une époque, il n'y avait que les riverains qui étaient attachés à la difficulté, qui étaient taxés. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Donc du coup, où passe le pognon?
Où vont les fonds? Alors on va demander à M. Lefebvre.
Et on va lui demander.
Oui, c'est la question qui nous tracasse le plus. Moi, effectivement, quand je vois ma feuille d'impôt arriver, je vois les histoires. Donc pourquoi ne pas taxer les gens qui profitent du bord de mer? Et qui profitent
ils sont
du travail
déjà taxés. Ils sont déjà taxés, Casimir. Monsieur Lefebvre.
Monsieur Lefebvre. C'est ça qui nous paraît jouer aux gens qui sont dans les terres, loin des inondations et loin
Oui, mais.
On va laisser parler de Monsieur Lefebvre.
Alors, je vous entends, je vous comprends, et la démarche que nous avons, nous, à l'Association de défense du trait de côte du Cotentin, c'est celle-là. Aujourd'hui, vous venez de poser les incompréhensions des uns et des autres. on parle d'ouvrages, on parle de gens comme des GIEC, ce sont des penseurs, très très bien, ils vont nous sortir des usines à gaz, très très bien, mais l'usine à gaz, comment on la finance? C'est en gros ce que vous posez. Et vous, vous dites, eh non mais c'est bon, moi j'habite à 5 km de la Terre, je vais quand même pas payer pour ce front de mer. Bon, vous venez de poser le vrai sujet. La démarche aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver un peu de cohérence dans l'ensemble de la protection du littoral. Sur le financement et sur les transferts de compétences, effectivement, le risque de submersion depuis la loi NOTRe, depuis 2018, a été transféré de l'État vers les communautés d'agglomération, communautés de communes. Très bien. Mais en même temps, dans cette loi, il est précisé que les communautés de communes ou communautés d'agglomération choisiront les axes sur lesquels ils vont travailler. Mmh. Donc vous avez une communauté d'agglomération qui va dire bon, « moi je vais travailler ici parce que, vous comprenez, j'ai ma maison ou j'ai un intérêt, donc je vais travailler ici. » Mais pas là, hein, parce que là ça m'intéresse pas, je m'en fous. Mais le danger existe aussi sur là. Donc vous avez ici « on travaille, mais pas là ». Mais par contre, la réalité, elle est commune aux deux. Donc vous avez ici effectivement un transfert, mais un transfert, excusez-moi, il est partiel.
Est-ce que c'est pas le département qui devrait chapeauter tout?
Alors on va prendre l'exemple, oui. Je vais juste répondre si vous
finissez.
Me permettez. Donc vous avez effectivement un problème déjà sur les transferts. Ensuite, si on va plus loin, vous avez les maires. Les maires sont, au sens de la loi, toujours responsables de la prévention des catastrophes naturelles. Donc monsieur le maire ou madame le maire a un vrai risque personnel de se retrouver en justice s'il ne mène pas d'action. Mmh. Mais le maire, il va dire, mais moi, c'est pas à moi de le faire.
C'est pas moi qui ai la compétence.
C'est pas moi qui ai la compétence. Donc, je renvoie au voisin. Le voisin, il dit, moi, j'ai pas choisi. Hein, c'est pas à cet endroit-là, j'ai pas décidé de faire. Mmh. Donc, vous imaginez déjà un petit peu le bon sens derrière tout ça. Mmh. Et puis, vous avez les habitants. Et là, je reviens, on parlait d'ASA, association syndicale autorisée, c'est des associations syndicales de propriétaires qui fonctionnent avec un périmètre. Donc, en gros, les périmètres, on va dire, c'est le périmètre de la commune ou avoisinant la commune, il peut y avoir plusieurs ASA, on peut rentrer, le principe est à peu près celui-là. Or, pour vous répondre, dans la règle, dans l'ordonnance 2004-632, qui définit le fonctionnement des ASA, les ASA, elles ont une mission de service public. Mmh. Cette mission de service public, c'est de créer des ouvrages de protection des personnes et des biens contre la mer. Ça, c'est leur mission.
Financée par elles-mêmes.
Elles financent à travers une taxe que paye monsieur, qui a le droit de dire, mais où va bon pognon?
Oui.
Voilà. Et donc, effectivement, la taxe, on lui taxe et dit, moi, c'est dégueulasse, je paye, je sais même pas où va mon argent. La réalité, c'est que l'ordonnance 2004-632, elle indique que la taxe est payée en fonction de l'intérêt de la propriété sur l'ouvrage. Plus vous êtes loin de la mer, moins vous payez. Plus vous êtes près de la mer, plus vous payez. Je vous ferai remarquer qu'en Hollande, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Parce qu'en Hollande, vous avez une ABAC, où en gros, plus vous êtes en altitude et loin de la mer, moins vous payez. Plus vous êtes en niveau bas et proche de la mer, plus vous payez. La règle, elle est aujourd'hui, effectivement, on a mis des ASA, on a mis des intercommunalités, on a mis des communes, parce que on n'oublie pas qu'une ASA n'est créée que s'il y a effectivement
besoin.
Les propriétaires du littoral, du domaine public maritime, sont à la fois privés et publics. S'il n'y a que un propriétaire public, à ce moment-là, normalement, c'est la collectivité publique qui est en charge de la protection du littoral. Donc vous allez trouver des endroits, par exemple à Barneville, il n'y a qu'un boulevard maritime, c'est une propriété publique de la charge de la commune, c'est à la commune de prendre en charge la protection du littoral. Mais si vous descendez à Coutainville, ou vous descendez à Denville ou à Saint-Germain, vous allez ou à Réville, vous allez avoir des propriétaires
des
privés qui sont
en
limite de domaine public maritime, donc on va créer une ASA. Donc vous voyez, le système est très complexe, c'est-à-dire que vous avez à la fois des représentants de propriétaires privés qui ont le droit de savoir où vont leur argent. Vous avez des communes qui disent « bah oui, mais je n'ai plus la compétence ». Vous avez des intercommunalités qui disent « moi, je choisis là où je vais protéger ». Et puis vous avez l'État qui dit « oh, bah moi, je ne fais rien parce que moi, j'ai tout renvoyé aux autres ».
Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un pilote devant tout le monde?
Alors, la réalité, c'est qu'effectivement, il me semblerait intéressant. Alors, on peut prendre un exemple très concret. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de Xynthia? En Charente-Maritime. Alors, j'élimine tout de suite parce qu'on va me dire « Ah oui, mais c'est la faute sur mer, c'est René Maratier, le maire de la faute sur mer, il a fait des bêtises, c'est lui le responsable. » Alors ça, c'est une vue très parcellaire parce qu'il y a beaucoup à dire. La réalité derrière, elle est qu'il y a 26 morts qui sont en dehors de la faute sur mer, qui ont été sur tout le long de la côte de Charente-Maritime, et qu'effectivement, face à la diversité des intercommunalités, des communes, des ASA, toutes sortes d'organisations, Monsieur Dominique Bustreau, président de la communauté du conseil départemental de Charente-Maritime, à la suite de Xinchia, a dit bon, allez, on met tout le monde autour de la table et on organise et on fait, on organise la structure. Donc effectivement, c'est le département qui a pris en charge cette organisation. Alors effectivement, dans la Manche aujourd'hui, il n'y a, à ma connaissance, mais je veux bien être ouvert à toute discussion avec Monsieur Morin ou avec d'autres sur comment fait-on, comment organisons-nous la protection du littoral dans le département de la Manche.
Et on va voir ça dans quelques instants. 12h24, on marque une courte pause et on revient très vite sur CFM.
On en parle Casimir. Sur CFM.
12h29, on en parle sur Casimir, vous m'avez entendu le réprimander. Alors aujourd'hui avec nous Denis Lefebvre de l'ADTCOC, Monica Gouns, Arnaud, Anne Chouville, mes deux sociétaires du jour sont bien arrivés, Casimir Buzinski et Jean-Luc Michel, on va poursuivre cette conversation. Merci Casimir, on va poursuivre cette conversation. Est-ce qu'il y a des bons élèves parmi nos élus qui travaillent bien, qui vont dans le bon sens?
Oui, nous avons quelques élus connus qui travaillent, qui réfléchissent et qui vont dans le bon sens. Je pense notamment à Béatrice Gosselin, par exemple, qui travaille beaucoup sur le sujet, qui réfléchit, qui essaye de remonter le sujet, d'essayer de travailler en cohérence, parce que tout ce qu'on a dit, c'est un problème de cohérence. Comment on monte un projet, comment ce projet s'adapte aux besoins des agriculteurs, des conchyliculteurs et des propriétaires. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas d'avoir un magnifique papier avec tout ce qu'il faudrait faire. C'est comment aujourd'hui on se protège concrètement.
Vous nous avez dit qu'il y avait des bons élèves,
oui.
Mais est-ce qu'il y a des mauvais élèves ? Question à 30 centimes.
Alors, je ne dirais pas qu'il y a des mauvais élèves. Il y a des élèves...
incompétents.
Non, des élèves dissipés ou des élèves évadés. Vous savez, c'est comme dans une classe. Des gens ne sont pas très concernés.
Mmh.
Voilà.
Ça veut dire quoi
Ça veut dire, dites-moi.
C'est qu'ils appréhendent pas le...
Ils ne connaissent pas.
Ils ne connaissent
pas. Et c'est bien l'enjeu de l'association de défense du trait de côte du Cotentin. Je ne vais pas dire lui, il n'est pas bien, il est méchant. Si c'est ça que vous voulez, non, faut trouver quelqu'un d'autre.
Dire.
Maintenant, il y a des gens qui sont conscients du risque. Et en gros, tous ceux qui ont à un moment donné, dans leur vécu, ont touché du doigt le risque en disant mais oui, là on pourrait avoir des morts, ces gens-là se sentent concernés.
C'est quoi ? Faudrait des morts pour que certains prennent conscience.
Alors, les mauvais hommes vous diraient que si on avait un Xinchia sur la côte ouest du Cotentin, on réglerait tous nos problèmes. Bon, ça, c'est les mauvaises langues. La réalité, c'est qu'effectivement, entre les services de l'État qui disent, nous, vous comprenez, on n'applique que le code de l'environnement. Oui, mais le code général des collectivités territoriales, la responsabilité du maire, ah, c'est pas notre domaine, faut voir ailleurs. La réalité, aujourd'hui, elle est que les ASA, les communes, ont des moyens financiers limités, certes, mais ils les ont. Ils peuvent mettre en place des ouvrages qui sont interdits par les services de l'État. Mais pourtant, les maires sont en responsabilité.
Pourquoi ils interdisent les ouvrages ?
Bah, parce qu'ils ne répondent pas au code de l'environnement.
Mmh.
Donc aujourd'hui, sur l'ensemble du Cotentin, vous n'avez aucun ouvrage qui est en cours de construction ou validé. Rien. Vous avez même des...
Ça bloque à la préfecture ?
Alors, ça bloque dans les services de l'État. La réalité, elle est clairement de dire pourquoi ? Ah, mais on applique on applique la législation. Oui, mais on met en danger...
La législation.
On met en danger les habitants. Mmh.
Alors, je reviens à la situation que j'exprimais tout à l'heure, à savoir la descente de...
C'était hors antenne, Casimir, il faut remettre le contexte.
Et il y a une autorisation de construction qui vient d'être donnée il y a...
Cher monsieur, vous savez qu'en France, tout ce qui n'est pas interdit ne peut pas être refusé. Vous le savez.
Mais non, mais
et si le plan local d'urbanisme vous autorise à construire à cet endroit-là, vous ne pouvez pas lui interdire. Mais si vous avez demandé une autorisation et qu'on vous la refuse, vous allez au tribunal administratif et puis on dira « bah non, monsieur le maire, il n'a pas le droit de vous le refuser ». Donc aujourd'hui, effectivement, vous l'avez à tout le rêve aujourd'hui d'un certain nombre de Parisiens ou
de
Canet, c'est de construire avec vue sur mer. Bon, le problématique, c'est qu'on peut pas mettre toute la population française face à la mer. On n'y arrivera pas. Donc, vous avez des enjeux, effectivement, de gens qui achètent des bouts de terrain, qui les recoupent, qui reconstruisent, etc., qui ne sont pas des solutions de bon sens. Mais tant que ça n'est pas interdit, vous pouvez, tant que la législation vous l'autorise, vous pouvez pas l'interdire.
Le PLUI a été repoussé.
Oui, le PLUI, il a été repoussé par 10 communes, là, si 11, on parle de Coutances, ou 11, sur Coutances, Mer et Bocage. Donc du coup, effectivement, on est dans un no man's land, puisque il faut encore attendre un an, parce que le temps de relancer les procédures, c'est très long. Donc du coup, effectivement, entre ce qui est permis, pas permis, parfois c'est un peu la jungle, et je vous l'accorde. Par contre, c'est certain qu'on a besoin de travailler avec les services de l'État pour coordonner, ça c'est l'obligation entre le sous-préfet de Coutances et puis le préfet de la Manche. Ils sont à la manette parce qu'ils savent très bien qu'il y a un souci sur lequel il va falloir amener des solutions. Les solutions ne pourront être amenées qu'avec les gens qui pratiquent les bords de mer, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires et les utilisateurs,
les conchyliculteurs.
Voilà. Mais il faut pas oublier un acteur qui parfois vient semer la pagaille. C'est parfois des associations dites écologiques qui elles ont une vision différente et qui vont vous empêcher certains ouvrages ou attaquer pour pas les citer, on l'a vu avec la bergerie il y a quelque temps dans cette même émission. Donc on est dans un pays où parfois pour faire un kilomètre de route, c'est devenu plus difficile que autre chose. Donc
un aéroport.
Donc moi je suis d'accord avec vous, il y a un souci, on a un peu de temps.
Est-ce qu'on a du temps?
Oui, on a un peu de temps, parce que si on prend le GIEC, par exemple, il vous dit pas, demain, vous aurez les pieds dans l'eau. Il vous dit, il faut prendre des mesures de préservation. Alors, ça veut dire commencer peut-être à faire des ouvrages à certains endroits, ne pas en faire à d'autres, pour essayer d'équilibrer la nature, parce que la montée des eaux, elle va avoir lieu.
Mais est-ce que c'est pas une vision globale qu'on doit avoir? C'est pas construire chacun dans son coin, ça va rien résoudre.
La réalité, c'est qu'on parle de quoi? Aujourd'hui, on nous dit, vous comprenez, ça sert à rien de construire parce qu'il y a des endroits, il va falloir déménager. Bon, c'est le grand leitmotiv, on va faire de la relocalisation. Bon, nous, on n'est pas opposés sur le principe de la relocalisation. On pose deux questions. C'est un, avec quels moyens? Deux, avec quelle méthode? Avec quels moyens? C'est très simple. L'État... On peut prendre clairement aujourd'hui, vous prenez les financements qui ont été accordés à Coutances, Mer et Bocage ou à la Cano ne suffisent pas, permettent de faire des études, mais ne suffisent pas à prévoir quelque relocalisation que ce soit. Mmh. Donc, financement pas possible. La méthode, on va où? La question, c'est qu'aujourd'hui, chez nous dans la Manche, quand on se recule du bord de mer, on arrive dans les marais. Bon, on peut construire dans les marais, mais alors le problème, ce sera pas la mer, ce sera les inondations. Bon, c'est guère mieux. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, on peut, quand je parlais d'usine à gaz tout à l'heure, je dis, on peut avoir des idées en disant, on va faire de la relocalisation. On n'est pas opposé. Mais on pourra les faire à 20, au mieux à 20 ans, voire 30 ou 50 ans. Là, on a du temps. Sauf qu'entre temps, les tempêtes vont continuer à souffler de plus en plus fort et qu'on a un vrai risque de submersion. Et là, je n'invente rien, les cartes du cadastre de la Manche sont explicites, les zones qui sont... Notre profil de plage est un cordon dunaire suivi d'une zone basse et après ça remonte. Si on ne protège pas notre cordon dunaire, on va le démolir, pas de chance pour ceux qui y habitent, bon c'est pas grave, hein. On s'en fout, c'est les riches. Mais derrière, tous ceux qui sont en zone basse, qui sont les pauvres, vont se retrouver les pieds dans l'eau. Donc on va noyer Madame Dupont, Monsieur Durand, et c'est pour ça que je vous disais, à un moment donné, on va se retrouver dans la situation de Xintia. Donc la réalité, elle est qu'aujourd'hui, me dire non, non, on fait rien parce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on va relocaliser, ça, c'est une ineptie. c'est une ineptie, parce que la réalité, c'est que le danger, quand vous dites il n'est pas pour demain, si je vous ferai remarquer que ça arrive souvent en février, au mois de février, vous prenez la grande marée, on n'a pas besoin d'avoir une marée à 119, hein, vous prenez à partir de 100. Hein. Les coefs aux alentours de 100 sont les plus dangereux. Vous pouvez regarder que Xinjiang est 102, etc. Donc on a clairement aujourd'hui une marée à 98, vous avez 150 km/h de vent. Si vous concordez, si vous coordonnez la marée haute, le fort coefficient, la dépression et les forts vents, je vous garantis la situation de Xintia pour cet hiver. Et là, je vous dis aujourd'hui. Alors, quand on me dit c'est pas, on a du temps. Oui, sur l'érosion, on a probablement un peu de temps, mais sur la submersion, nous n'avons pas de temps. Et la réalité, c'est quand on va remplir, il y a des haves comme le havre de Port-Bail, quand vous allez le remplir avec 1,50 de surcote, parce que 150 km/h de vent, ça correspond à peu près à 1,50 de surcote, que vous avez rempli le havre, ben moi, je vous garantis qu'il y a quelques maisons qui vont avoir les pieds dans l'eau. Si personne ne dort au rez-de-chaussée, c'est pas grave, mais si c'est Madame Dupont qui dort au rez-de-chaussée, ben, on l'enterrera. Je vous garantis que ça va faire du bruit et que les médias vont pouvoir venir nous rencontrer.
Alors, dans un monde idéal, ça serait quoi la solution ?
Dans un premier temps, accorder les protections du littoral local aux ASA et aux communes. On fait le minimum. On peut aussi concevoir des talus. Ça s'appelle des cordons dunaires secondaires. On peut mener un certain nombre d'actions, des portes à marée, etc. Des éléments qui souvent existent déjà, ou ont déjà été commencés, mais ne peuvent pas être poursuivis ou entretenus. Parce qu'on a un certain nombre de problèmes à Saint-Martin-de-Bréal, c'est un problème d'entretien. Alors oui, mais vous comprenez, à Hauteville, c'est pareil. Oh, mais ça va peut-être pas rentrer dans le plan à 30 ans. Oui, mais aujourd'hui, c'est ça qui est important. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, si on veut effectivement travailler à un plan à 20 ou 30 ans de relocalisation, il faut protéger aujourd'hui ce qui existe. En gros, sur la côte du Cotentin, c'est entre 15 et 20 kilomètres de côte à protéger sur les 300, 350. Ce sont les zones urbaines. Nous n'avons pas l'intention, parce qu'on nous prête, et vous le disiez, il y a quelques associations, de bétonner toute la Manche. Non, ce n'est pas, absolument pas notre souhait. Notre souhait, c'est protéger les personnes et les biens, là où ils existent. J'ai envie de dire, il y a des ASA qui ont dispensé de cotisation les propriétaires des zones où il n'y a pas d'habitation. Parce qu'on considère que s'il n'y a pas d'habitation, il y a pas moins d'habitants. Et donc, comme notre objectif, c'est de protéger les personnes et les biens, s'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de biens, il n'y a pas de biens de protéger. Donc, on va dispenser les gens de payer les taxes. Maintenant, s'il y a des gens à protéger, et pour répondre à ceux qui disent « Oh, mais moi, je suis très loin de la mer, je suis à 15 mètres, 30 mètres de la mer. » Donc, en altitude. Mais le jour où toutes vos canalisations d'assainissement seront remplies d'eau de mer, vous ne pourrez plus tirer la chasse d'eau, cher monsieur. Et donc la réalité, c'est que si vous pouvez plus tirer la chasse d'eau, je vous laisse en tirer les conclusions.
12h40, il va réfléchir. 12h40, on marque une courte pause et on revient très vite sur CFM. CFM. 12h43, on en parle sur CFM, l'émission de la rédaction. Avec nous, Denis Lefebvre, Monica Gouns, Arnaud, Anne Chouville et mes deux sociétaires du jour, Casimir Buzinski et Jean-Luc Michel. Mesdames, c'est à nous. Déjà, on va commencer par un petit parcours professionnel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qui commence ? Anne Chouville.
Alors, bonjour à tous.
Alors, bien dans le micro, vous le rapprochez, vous parlez très, très, très proche.
Bonjour à tous, je suis Anne Chouville, je suis ébéniste d'art et rempailleuse en torons de tissu.
Donc c'est un dans quel secteur ?
Sur Saint-Martin-de-Senis, c'est un tout petit village très loin de la côte.
Oui, on connaît.
près entre Gavray et Cerisy-la-Salle.
D'accord. Madame Gouns-Arnaud.
Eh bien, ravie d'être là. Je suis coach, formatrice, consultante, installée à Coutances. Je travaille en présentiel auprès de particuliers, entreprises. Et aussi en déplacement et en distanciel.
Et vous avez créé le club Business Connect.
Oui.
Avec une tierce personne.
Tout à fait. Cécile Vieval, qui est menuisière, qui fait de l'agencement intérieur sur créance.
Alors, c'est quoi cette association ? C'est une association ?
C'est une association qui vient de se créer, qui est un cercle professionnel féminin, qui est ancré bien sur Coutances et le Centre Manche. D'ailleurs, son nom, c'est le cercle des dirigeantes du Centre Manche. Et donc, c'est un réseau qui est basé sur la recommandation, sur la croissance et le co-développement. Et ce cercle est réservé aux femmes chefs d'entreprise, indépendantes, et dirigeante.
Pourquoi ? Pourquoi réserver aux femmes ?
Pourquoi réserver aux femmes ? Bah, pour nous, déjà, ce n'est pas un sujet. En même temps, c'est un sujet. Alors, je vais vous donner effectivement la genèse du projet. Mmh. Nous sommes toutes les trois, Cécile, Anne et moi-même, des rescapées d'un groupe national qui s'appelle les Bouche de la Boîte, mmh. un réseau d'entrepreneurs donc au féminin. Qui permet en toute sororité de se développer, de se recommander et permettre aux femmes entrepreneurs de prendre confiance aussi dans un monde qui n'est pas toujours très accueillant.
Mettre un homme dans l'association, ça veut dire que cette confiance, vous la perdez ?
Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, je précise que nous sommes toutes les trois adhérentes aussi d'autres structures, business clubs, d'autres associations mixtes. Mmh. Et nous apprécions toute la richesse de ces rencontres. Et,
alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans votre structure ?
Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Nous avons ressenti un vrai vide après la fermeture de Bouche ta boîte.
Parce que c'était réservé aux femmes.
Et on a constaté que beaucoup de femmes entrepreneurs autour de nous avaient besoin d'un lieu pour se retrouver, se recommander et se soutenir, se co-développer. Donc, nous avons décidé de créer ce groupe, ce club, à notre échelle, à taille humaine.
Jean-Luc Michel.
Oui, alors, au Césaire de Normandie, on a mené une étude sur
l'entrepreneuriat
au féminin.
Oui.
Et je vous invite à lire ce rapport, qui n'est pas si vieux que ça. Et on avait pointé, effectivement, les difficultés pour les femmes. Dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Oui, on va y arriver.
Et ce qui était ressorti de l'étude, effectivement, c'est la place qu'on laisse aux femmes ou qu'on donne aux femmes pour entreprendre dans l'entreprise, dans la vie économique. Et je vous invite, il est en libre service sur le site du Césaire, et vous verrez qu'on avait fait des préconisations, notamment pour donner plus de place aux femmes, notamment dans le management des entreprises, parce que souvent, il faut le dire, c'est quand même les hommes qui sont à la tête des entreprises.
Quels sont les prérequis pour postuler dans...
Les prérequis,
déjà être une femme.
C'est une femme.
Voilà, c'est déjà un premier début.
Effectivement, et dans notre feuille de route, on crée un cercle de 15 à 20 femmes avec une exclusivité de métier, puisque nous partons du principe que nous allons devenir la commerciale des autres. Et on va s'appuyer sur un système de recommandation, évidemment avec conviction, et de façon pertinente. Mmh. Ce n'est pas coûte que coûte, mais néanmoins un lieu où on va apprendre à connaître le métier, les entreprises, les prestations proposées des autres pour pouvoir les mettre en avant, les mettre en lumière quand c'est pertinent. Et entre nous, eh bien, effectivement, nous entraider, nous co-développer en faisant des ateliers. Bah justement, autour d'une problématique, autour d'une thématique ou autour d'un métier spécifique. Mmh.
Vous pouvez nous donner un exemple d'entraide que vous pouvez donner ?
Un exemple d'entraide, eh bien, effectivement, prenons ton exemple.
Anne Chouville.
Donc, j'avais besoin dans mon métier, je peux travailler sur des chaises de designer. J'avais besoin d'un conseil par un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle. Mmh. Je n'en connais personnellement pas. J'ai donc demandé au groupe, dans les 15 minutes j'avais un contact, j'ai pu échanger par mail toute la semaine avec cet avocat et j'ai répondu à toutes mes questions.
Et c'est gratuit ?
Et ça a été gratuit.
D'accord. Poursuivez.
Effectivement, donc là, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne.
Allez-y, oui.
Donc on se rencontre deux fois par mois, deux lundis par mois, à Coutances, en fin de matinée, sur un horaire dit de travail, puisque se rencontrer entre femmes entrepreneurs...
Une heure intelligente.
C'est une heure intelligente
que oui, l'heure de l'apéro.
10h30, c'est trop tôt pour moi pour l'apéritif.
Néanmoins,
c'est un moment où nous sommes en pleine ébullition. Mm-hmm. Et c'est pour nous un rendez-vous de travail au même titre qu'avec un client ou avec un fournisseur. Puisque durant ce moment... Il y a un temps de pitch. Donc le pitch, c'est le moment où chaque entrepreneur va présenter son activité et rien que sur cet exercice.
Donc c'est une fois la présentation, ça se fait une seule fois ou à chaque fois ?
Ça se fait à chaque fois.
Mais toujours la même. Tout le monde fait sa présentation.
Tout le monde fait son.
On fait un tour de table. Bonjour, je m'appelle. C'est ça ou pas?
Bonjour, je m'appelle, je propose tel service. Et le pitch, en fait, il est évolutif en fonction de à qui on s'adresse, dans quelles circonstances. Quand je suis en entreprise, je ne pitch pas de la même façon que quand je rencontre quelqu'un dans un contexte différent, individuel. Et durant chacune des rencontres qui dure 1 heure et demie, il y a effectivement ce tour de pitch où on progresse, où on se pose des questions. Justement, ben moi, j'ai toujours pas compris ce que tu fais, explique-moi un petit peu. Et il y a ce tour, eh bien, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin d'un contact tel que Anne vient de le décrire. J'ai besoin de rentrer dans tel réseau. Donc, c'est le carnet d'adresses qui fonctionne. Ou j'ai besoin d'idées, comment je peux commercialiser telle ou telle prestation. Comment je peux m'améliorer dans telle ou telle chose. Et donc, c'est du vrai co-développement, puisque autour de vous, vous avez une dizaine, une douzaine, une quinzaine de consultantes à votre service.
Des corps de métier qui sont interdits dans votre structure? Un corps de métier, oui, bah, je ne sais pas, des avocats, des...
Non, pas d'interdiction.
Il n'y a pas d'interdiction.
Non, pas d'interdiction. Par contre, il ne peut pas avoir deux métiers identiques. Alors, on peut prendre, par exemple, pour les avocats, c'est un exemple très concret, on peut avoir deux avocats, mais qui vont avoir des cibles totalement différentes.
Un fiscaliste et un
pénaliste. Et un droit des familles, c'est deux métiers différents presque. Donc là, il n'y a pas de problème.
Quand la cible diffère, c'est effectivement absolument admissible. Mais des métiers, que ce soit dans l'artisanat, dans les services, dans l'industrie, c'est
dans
très,
l'agriculture.
Très... Dans l'agriculture, oui.
Oui.
Précisons-le. Puisque effectivement nous sommes aussi encouragés et soutenus par des maires de notre territoire. Donc le maire de Coutances a salué notre initiative, il nous soutient. Et de même, nous avons accueilli lors de notre dernière rencontre Madame la maire de l'Essé, Stéphanie Mauvais, qui nous soutient aussi dans notre démarche, puisque nous ne sommes pas exclusivement à Coutances, mais à terme, nous allons bouger sur le territoire.
Les réunions se font à Coutances? Et à terme, vous allez bouger un peu plus sur le territoire.
Absolument, on peut aller effectivement à l'essai.
Combien d'adhérents pour le moment?
Pour le moment, donc nous venons de voir le jour. Nous avons actuellement une dizaine d'adhérentes et nous sommes en plein recrutement puisque nous avons décidé d'ouvrir le cercle avant de publier, avant de venir vers la presse, vers la radio. Et donc là, nous sommes en recrutement de...
Alors, quel profil vous recherchez? Faites vos courses, hein.
Ah oui, effectivement, une avocate, des avocates, photographe, agriculture, tourisme agricole.
Vous démarchez des personnes pour les recruter ou pas?
Non, on fait appel, effectivement, actuellement à la presse et à la radio de nous faire connaître. Aussi au réseau, d'ailleurs, qui nous soutiennent, la Chambre des métiers, pour ne pas les citer, la CAPEB, qui nous encourage. Nous avons une page existante en ligne sur LinkedIn et bientôt sur Instagram, où des personnes nous suivent, ont nos actualités vraiment au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il y a un autre facteur quand même de communication qui est très important. Et là, j'ai envie que ce soit Anne qui nous en parle, avec une nomination, une reconnaissance nationale déjà en route.
C'est ça. Nous avons participé à un concours qui s'appelle Inspiration Awards à Paris. Et donc, nous avons été présélectionnés et maintenant nominés. Donc sur 400 entreprises et associations au départ, nous ne sommes plus que 24 par catégorie sélectionnées. Et donc la finale, c'est le 10 février au Théâtre Mogador. Et donc il faut voter sur les réseaux sociaux.
Ah, mais comment concourir?
Alors, pour nous faire gagner, il faut voter sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Instagram, c'est pour ça que le Club Business Connect va avoir sa page Instagram. Donc il faut voter pour nous sur Instagram. Et ensuite, c'est un jury lors de la soirée qui va...
Sur quels critères?
Sur,
vous les connaissez ou pas?
Alors, sur le. Alors, ce sont toutes des entreprises et des associations portées par des femmes. Et donc, c'est sur l'avantage, enfin, les.
Les avantages qu'on en retire si on adhère à l'association.
En fait, ce sont des activités qui sont inspirantes.
C'est ça.
Comme sont effectivement Inspiration Awards. C'est pour récompenser des actions, des activités initiées par des femmes qui retiennent l'attention. Et donc, dans les catégories, effectivement, il y a des artistes, dans laquelle, d'ailleurs, Anne concourt aussi avec son métier.
Ouais.
Il y a la catégorie des associations, la catégorie des influenceuses,
voilà. Et des entrepreneurs.
Et des entrepreneurs. Voilà.
C'est un coût pour vous rejoindre?
Oui, absolument. Mmh. Et notre choix est de rendre cette appartenance le plus accessible possible. Donc, l'adhésion annuelle est de 200 euros pour effectivement bénéficier des rencontres et des publications, des mises en lumière, recommandations.
Jean-Luc Michel, pour un dernier mot.
Oui, alors sur une des recommandations du rapport du Césaire.
Que nous connaissons bien. Hein.
Oui, et une des recommandations, c'était justement des clubs féminins qui demandaient à se développer sur la Normandie. Ben là, vous en êtes l'exemple. Et je trouve que c'est une très bonne initiative parce que du coup, ça a toute sa pertinence pour justement développer, promouvoir l'action des chefs d'entreprise femmes. Et je trouve ça très, très bien.
Merci. Un numéro pour vous joindre?
Un numéro pour nous
comment
rejoindre.
Comment on fait pour vous contacter?
Absolument, le 06 84 01 14 63. Et je vous invite bien à nous rejoindre, à parler de nous, puisqu'on grandit mieux ensemble.
Et un site internet, non? Ce sera peut-être plus facile pour les gens de...
Pour le moment, sur LinkedIn, Club Business Connect, vous nous trouvez facilement à partir de Google.
Une chose à rajouter avant de rendre l'antenne?
Rejoignez-nous.
Voilà, c'était le mot. Pour vous, 12h56, on marque une courte pause et on revient très vite.
CFM. On en parle sur CFM.
12h59, on en parle sur CFM. Avec nous aujourd'hui, Denis Lefebvre, Monica Gounz, Arnaud, Anne Chouville et Casimir Musinski et Jean-Luc Michel qui sont mes deux sociétaires du jour. On en vient au troisième sujet, ce fameux projet de loi. Il est préconisé à un arrêt de travail de un mois et un renouvellement de deux mois. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Qui veut commencer?
Casimir Musinski. Ça n'a pas de valeur en soi, sont des mots. Ce qu'il faut savoir, c'est que coûtent les arrêts de travail. Et c'est que quand on regarde les diverses publications,
bien dans le micro,
les diverses publications sur le sujet, quand c'est le patronat, il dit que ça coûte environ 30 milliards d'euros. Quand c'est les syndicats, il dit eux disent que c'est 20 millions d'euros, et quand la Sécu intervient dans ses publications, elle dit que c'est 40 milliards d'euros. Donc ces chiffres variés tiennent au fait que pour la fonction publique, il n'y a pas de jour de carence.
C'est faux. Non, c'est faux.
Alors attends, laisse-moi terminer mon truc, parce que ça je le tiens des résultats de ça. Alors, toi, tu dis, t'es syndicaliste, que c'est faux. Moi, je te dis que je
Casimir, enchaînez, vous perdez
alors,
du temps.
Donc, on disait, là, les jours de carence, c'est-à-dire des jours non payés, en cas d'arrêt de maladie, c'est l'État qui paye le mois complet et va puiser dans les caisses de la Sécu la différence.
C'est l'État l'employeur.
Enfin, c'est l'État qui vient prendre de l'argent qui est destiné à la Sécu pour ne pas, comment dire, avoir deux jours de carence. Enfin, le reste à charge pour les salariés est en France le plus bas de la communauté européenne après le Luxembourg. Mais on sait qu'au Luxembourg, il y a beaucoup de sous. Hein. C'est le refuge des fortunes des employeurs. Donc, pour les arrêts de maladie, on peut retenir, d'après le DARES, qui est l'organisme fiable, des sources financières de la sécurité sociale, il nous dit les dépenses pour les arrêts maladie, c'est 10,2 milliards par an. Mmh. Pour les arrêts de travail et les maladies professionnelles, 4,1 milliards par an. Et pour les congés maternité et adoption, c'est 2,7. Donc globalement, ça nous fait 15-16 milliards. Alors les autres milliards qui sont déclarés par les syndicats ou par le patronat, on ne sait pas très bien où ça va. Alors, les arrêts de travail donc sur les plus âgés, d'habitude, ça fait un pourcentage, on représente à peu près 7% de la population, et c'est 7%, c'est la moitié des 20 000, 30 000 ou 40 000 euros qu'on nous raconte. Alors, les arrêts maladie représentent 60% des dépenses, l'indemnité journalière, c'est quand même une somme non négligeable, et enfin, l'activité des salariés est parfois insuffisante, comme on peut le constater, parfois dans la fonction publique, et je me rappelle toujours de cet employé une vingtaine d'années qui travaillait au Conseil Général et qu'on appelait Monsieur 15h. Parce que à 15h, son bureau était propre et net avec des crayons, etc. Mais monsieur n'était plus là à partir de 15h.
Il était consciencieux.
Mais des exemples comme ça, il y en a en pagaille.
Alors, ça, c'est autre chose. Jean-Luc Michel.
De quoi parle-t-on ? Parce que là, du coup, les arrêts de travail, vous avez vu que les parlementaires se sont penchés sur les dépenses de la sécurité sociale et on a pointé depuis quelques mois, effectivement, une anomalie. Hein, c'est une montée en charge des arrêts de travail et très rapidement, la sécurité sociale a pris une décision, c'est de mettre en sécurité ce formulaire. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, ce formulaire a changé pour éviter les fraudes. Parce que on parle des utilisateurs de l'arrêt de travail. Il faut quand même savoir que la grande majorité des gens qui s'arrêtent, c'est pour des bonnes raisons. C'est parce qu'ils sont malades et qu'on évite soit de contaminer ceux qui sont au travail avec eux et puis leur propre santé. Donc, l'arrêt de maladie, il n'est pas remis en cause en tant que tel. C'est que nous avons eu... après la période Covid, une montée extrêmement importante des arrêts de travail et il est apparu effectivement qu'un certain nombre de fraudes à l'arrêt de travail. Vous avez vu, avec Internet, on peut avoir un arrêt de travail plus facilement, etc. Donc la Sécu, là on est sur un système
à sécuriser son document.
Paritaire, c'est-à-dire le conseil d'administration de la Sécu a décidé effectivement de sécuriser ce formulaire qui maintenant va permettre de contrôler davantage la fiabilité de l'arrêt de travail parce qu'effectivement il y a de la fraude et moi je le dis, ceux qui fraudent doivent être poursuivis parce que c'est le bien commun. Là où il faut faire très attention parce que dans le discours, moi je suis prêt à entendre qu'il y ait des gens qui profitent du système et qu'il faut combattre ce système. Mais pour combattre ce système, il faut des gens pour le contrôler. Je vous rappelle quand même, pour la petite histoire, qu'on a enlevé les contrôleurs. C'est-à-dire qu'il fallait enlever les fonctionnaires. À une époque, il y avait trop de fonctionnaires. Ça, c'était le discours du patronat et de la droite bien pensante. Donc, on a enlevé des fonctionnaires, et notamment les contrôleurs. Alors aujourd'hui, on nous dit, il y a des dérives. Ben oui, il faut remettre des contrôleurs. Parce que je vous rappelle quand même que là où le français sent qu'il y a une brèche, il s'y engouffre. Donc, je vous le dis, le problème de la Sécu, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. Il faut le dire haut et fort. Pourquoi recette ? C'est qu'on a exonéré un certain nombre d'activités des cotisations. Et aujourd'hui, on fait ceux qui sont étonnés, l'argent rentre moins. On a pris des décisions politiques d'exonérer un certain nombre d'entreprises et de salariés par le même coup. Et forcément, c'est autant de moins qui rentrent dans la caisse. Donc on a un problème de recette. Il faut bien se le dire, ça.
Bon, on revient quand même sur
et on revient aux arrêts
projet de loi.
Aux arrêts maladie, les arrêts journaliers. Et je vous rappelle que dans la fonction
publique...
Mais ils
ne sont pas tous frauduleux.
Dans la fonction publique, il y a un jour de carence, hein, quoi qu'en dise le docteur. Il faut relire vos tablettes, mon cher. Jour de carence. On veut le monter à 3 jours. Là, forcément, les syndicats ne sont pas d'accord. Mais oui, il y a un jour de carence, et je peux vous le confirmer.
Il est à 3 jours et il veut le monter à 8 jours.
Alors, ne disons pas n'importe quoi. Et dans le privé, alors là, ça dépend des conventions collectives. Si vous êtes dans la métallurgie, par exemple, comme moi, je suis dans la métallurgie, j'ai pas de délai de carence, parce que l'entreprise a pris en charge dans la convention collective ce délai de carence. Et ça existe dans X conventions collectives. Donc, Bien sûr, on a assuré nos salariés, en cas d'arrêt de maladie, de ne pas avoir de perte de revenus ou de salaire. Et c'est très bien. Et ça, c'est chaque convention collective qu'on a décidé. C'est des décisions paritaires entre les organisations patronales et syndicales, c'est très très bien. Là où on veut remettre en cause effectivement l'arrêt de maladie, c'est sur les gens qui abusent. Et là, je suis d'accord pour dire que il nous faut aujourd'hui, avec tous les systèmes, l'IA, etc., des protections sur la dépense collective de notre sécu. Il n'est pas normal que des gens profitent effectivement à tort et à travers, et notamment les arrêts de maladie coûtent très cher, je suis d'accord. Mmh. Mais de là à mettre tout le monde dans le même sac, comme certains voudraient nous le faire penser, c'est non. Parce que pour beaucoup, l'arrêt de maladie est justifié par une maladie ou une pathologie, et il faut en tenir compte. Et je peux vous dire que depuis le Covid, les maladies mentales se sont ont explosé. On en parlait l'autre jour à la radio,
et on les retrouve.
Et on les retrouve dans les arrêts de maladie, malheureusement. Et donc, oui, à la chasse à ceux qui fraudent, non à ceux qui effectivement utilisent l'arrêt de travail parce qu'ils en ont besoin.
Alors, il faudrait peut-être un petit peu atténuer certitude qu'émet notre camarade et néanmoins ami Jean-Luc Michel, c'est que il y a un paquet de gens qui viennent pour des petites dépressions, pour des petits ennuis. C'est énorme, ça représente 50% actuellement des arrêts maladie. Voilà, faut lire le dress, c'est pas moi qui dis, lire le dress.
Cher docteur, celui qui fait l'arrêt de travail, c'est le docteur, c'est pas le patient. Donc, il y a peut-être un problème du côté des médecins.
Oui.
Il y a peut-être un problème du côté des médecins, des médecins sur les arrêts de travail.
Peut-être qu'il faut y venir.
Parce que là, on ne peut pas reprocher à un salarié d'aller voir un médecin et d'obtenir un arrêt.
J'allais venir pour accéder des médecins. Parfois, on passe par la télé...
Consultation.
Et cette téléconsultation, c'est peanuts. Ça coûte de l'argent à la sécurité sociale, ça rapporte aux sociétés qui ont installé ces machines de consultation, et point. Et là derrière, vous avez cette petite brèche dans laquelle viennent, entrer les Français pour profiter. Je vous parle aussi de l'arrêt, de la démission d'une situation avec accord entre le patron, etc. Les gars repartent avec des belles sommes et arrêtent de travailler pendant des mois et des mois.
Oui, alors
c'est, non mais... ça fait quand même des trous et des fissures dans le système dans lequel aiment bien s'insérer, que ce soit les patients, que ce soit les médecins véreux.
La réponse de Jean-Luc Michel est à prendre en chaîne avec les cartes blanches.
Très rapidement, parce qu'il y a effectivement plusieurs catégories, et il y a beaucoup de catégories de salariés. Tout à l'heure, il y a les jeunes entrepreneurs, quand ils n'ont pas d'activité, la couverture, là aussi, on peut se poser la question. Là aussi, on a des choses à repenser parce que le monde du travail change. Mais là où je voulais en venir quand même au bout du bout, c'est que le premier fraudeur à la sécu, hein, vous savez qui c'est ?
Vous allez me dire que c'est l'État.
Non, c'est les professionnels de santé. Et on a tous les jours, et d'ailleurs, il y a un rapport de l'IGAS sur le sujet, soyons attentifs, quand on dénonce l'arrêt de maladie, derrière, il y a un médecin qui a fait l'arrêt de maladie, hein, quand même. Alors, ça peut être effectivement à distance. C'est pour cette raison que la Sécu vient de revoir son formulaire sécurisé, pour justement éviter ce genre d'attitude. Mais encore une fois, les premiers fraudeurs, ce sont les professionnels de santé.
Alors...
Et je ne veux pas les énumérer là, parce que ce n'était pas le sujet de l'émission aujourd'hui. Mais posons-nous les bonnes questions. Notre sécu, il faut absolument
la préserver,
parce que c'est un joyau, comme on dit. Hein. Mais oui, à dénoncer les dérives. Oui, je suis pour qu'on dénonce les dérives de certains qui abusent sur le dos de la sécu.
13h12, on passe aux cartes blanches. Qui veut commencer ? Jean-Luc Michel.
Ah, ben moi j'ai une carte blanche d'information, donc pour mon organisation. La CFDT vient de faire son congrès, congrès régional. Et d'abord, pour vous dire que c'était dans une belle ville, puisque c'était à Cherbourg. Remercier le maire de Cherbourg qui nous a accueillis pendant ces deux jours de congrès. Très belle ville. Et avec un nouveau secrétaire général, Jonathan Jarige, 36 ans, un jeune qui vient à la tête de notre organisation. Et puis, responsables renouvelés avec des jeunes, donc une nouvelle équipe. Donc je tenais à saluer la CFDT en Normandie qui va vous amener les solutions dont on a besoin dans le monde du travail.
Anne Chouville ou Monica Gunz-Arnaud ? Une carte blanche.
Peu importe, j'y vais. Donc moi, je voudrais vous proposer de venir le samedi 6 novembre au Noël des associations... samedi 6 décembre au Noël des associations de Notre-Dame de Senilly. Donc, il y a une tombola avec de très beaux lots à gagner. Et en fait, on essaye de réunir des fonds pour faire venir pendant une semaine un cirque dans l'école pour avoir une initiation pour tous les enfants de l'école au cirque.
Alors, le 6 décembre...
C'est les cartes blanches,
on ne parle pas. C'est la Saint-Nicolas, hein, n'oubliez pas.
Madame Gunz-Arnaud.
Eh bien, ma carte blanche, bah, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur va pour la ville de Coutances, puisque comme vous avez décelé, bah, moi, je ne suis pas née à Coutances. Mais c'est pour moi, effectivement, une ville qui m'a accueillie depuis quelques dizaines d'années déjà, dont j'apprécie, pour moi, la douceur de vivre, et j'en inclus ma terre d'accueil, la Manche. Et j'étais très sensible au sujet aujourd'hui présenté autour de la protection des côtes. Et Dieu sait qu'il y en a des kilomètres à protéger. Coutances, ma ville de cœur qui m'a vu en fait grandir dans mon parcours professionnel, d'abord dans l'hôtellerie. Et j'étais sensible à vos propos. Par rapport aux arrêts maladie, moi je connais très bien effectivement le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Moi, mon premier parcours de première étape de carrière avec effectivement des jours de carence qui font réfléchir les salariés. Est-ce que je vais perdre 3 jours de salaire ou est-ce que je vais au travail même si je suis malade? Et aujourd'hui, effectivement, en étant dans mon métier de coach et de formatrice, j'accompagne beaucoup de femmes notamment qui croulent sous une charge mentale puisqu'elles ont des responsabilités dans la vie professionnelle, responsabilités familiales. Souvent elles portent effectivement beaucoup beaucoup de choses et cette charge mentale qui les épuise et pourtant beaucoup de ces femmes ne prennent pas des arrêts de travail mais elles assurent, elles tiennent, elles coûte que coûte et aujourd'hui eh bien j'ai envie de saluer
ces femmes. Denis Lefebvre.
Eh bien, moi, je voudrais reprendre les mots. Posons-nous les bonnes questions. Nous sommes à risque sur le littoral de la Manche. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est pas quelques penseurs qui décident, c'est la population, les collectivités territoriales, les associations. Nous avons des moyens au niveau des ASA, on peut agir. Et je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Oui, la Manche est un beau territoire. La Manche est une terre agréable à vivre. Ce qu'il est important, c'est de le maintenir. Quand on aura les pieds dans l'eau et qu'on ne pourra plus tirer la chasse d'eau, on aura bien du mal à vivre.
Casimir, pas de réponse. Votre carte blanche. Et bien dans le micro.
Alors, vous signalez que effectivement, ce que vous ne voulez pas soulever comme problème, Jean-Luc Michel, concernant les fraudes, c'est vrai que sur la masse des fraudes, la quantité des fraudeurs est représentée par ceux qui en profitent, mais en ce qui concerne la masse financière, c'est hélas les professionnels de santé qui en sont responsables.
Merci à tous d'être venus au micro de CFM. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur le www.cfm.fr à la rubrique podcast. On se quitte et on remercie Jean-Louis à la technique.